Yes. Eh bien, voilà, on souhaite évidemment toutes nos condoléances à sa famille. Voilà. On va donc se quitter avec le générique et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission, 20h mardi prochain sur Radio G pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Quelques secondes, vous êtes bien sur le 101.5 FM de Radio G et c'est Calibre 58 avec un événement. Pour la première fois de la saison, nous sommes en direct.
Bon, c'est aussi la dernière fois, c'est ballot. Mais quand même, ça fait du bien, pas vrai les amis ?
Ah oui.
J'en oublierai presque les formules de politesse. Calibre 58, c'est avec vos complices de presque toujours, c'est-à-dire Linda, Luc, Toups et moi-même ou Julien. Bonjour les amis.
Bonjour à tous.
Bonjour Julien et bonjour.
Salut Julien.
Bonjour chers auditeurs.
Ah, ça fait du bien de vous retrouver dans cette émission. En parlant de cette émission, on va vous raconter un petit peu le sommaire. Alors, il y aura une interview de François Medellin pour un roman qui s'intitule La Sacrifiée du Vercors, la chronique de Linda concernant Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin, celle de Luc au sujet d'un roman d'ADG, celle musicale de Toups qui revient aux origines du rock'n'roll et notre débat cinéma autour du film Les cadavres ne portent pas de costard de Kurt Reiner. Alors, pendant que je vous parle au micro de tout ce joyeux programme, Luc retrouve ses vieilles habitudes à la technique avec tout le stress professionnel engendré. C'est bon pour toi, Luc ?
C'est ok.
Alors, générique, maestro. vous êtes sur le 101.5 FM et c'est Calibre 58, l'émission qui vous sort du noir en direct, et c'est exceptionnel, mais avec ses habituels complices. Il n'y a pas qu'à Gérard Depardieu qu'il manque, Patrick Devers. Vous écoutiez la bande originale de Coup de tête, une composition de Pierre Bachelet pour un film de Jean-Jacques Hano, film qui date de 1979 et qui nous plongeait à l'époque au milieu d'une petite commune paumée, appelons-la Trinquant, avec son usine, son PDG odieux, Jean Bouise magnifique, son club de foot qui joue la Coupe de France et Patrick Devers en star déchu un peu de tout. Accusé d'un viol qu'il n'a pas commis, licencié de l'entreprise, foutu en prison et ressorti juste pour jouer les sauveurs de service. Il n'y avait strictement rien pour l'énerver dans ce scénario de Francis Weber. J'aime Patrick Devers, je ne sais pas s'il a joué un jour dans un mauvais film. Et il ne vous a pas échappé, surtout si vous écoutiez l'émission précédente, qu'il y a en ce moment une petite compétition footballistique sur le vieux continent. Messi, comme Linda, vous êtes absolument allergique au ballon rond.
Oh, oui. C'est pas vrai. Quand ça joue bien, j'aime bien.
Ou comme Luc, quelques pistes littéraires qui pourront ou vous convertir ou vous confirmer dans votre opinion. Si je vous cause de Football Factory de John King, ça vous cause un peu ? Eh bien, cette histoire se passe à Chelsea. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bien crade. Ça a été publié en 98 par Christelle Paris à l'atelier Alpha Bleu, repris depuis plusieurs fois par d'autres éditeurs, l'Olivier, Au Diable Vauvert, et adapté en 2004 par Nick Love. Mais je persiste à penser que Ken Loach en aurait fait quelque chose de formidable. Et puis, j'ai un autre roman qui est une vraie perle, lui, Rouge ou mort, de David Peace. Vous connaissez David Peace ?
Oui.
Alors ?
Je me rappelle plus, mais je connais, j'ai lu.
Toujours très bon, David Peace, l'auteur du Quatuor du Yorkshire, retrace l'histoire du club de Liverpool sous la direction de Bill Shankly. C'est à la fois sombre, hypnotique et poétique. Une véritable œuvre d'art, quoi. Et j'ajoute que Michael Mention, que nous avons interviewé il y a peu, avait commis un livre qui s'appelait « Jeudi noir », un thriller sur la demi-finale France-Allemagne de 1982. Alors bon, de tout ça, on va garder les Allemands, on va troquer le ballon rond pour le ballon ovale, et on va maintenant filer du côté de Lyon en 1944 avec La Sacrifiée du Vercors de François Médélin chez 10-18. Dans un style très épuré, l'auteur nous convie à une journée particulière en compagnie d'un commissaire de police parti chercher une femme qui en croise une autre, photographe de guerre américaine à vélo, et aussi une autre, enfin, le corps d'une autre, jeune femme, violée et tondue. Il se retrouve surtout dans un panier de crabes résistants. François Médélin, c'est 5 romans à son actif, un attrait pour l'histoire, et dans cette histoire, il parvient à mêler l'intime, l'héritage de sa propre famille et la grande histoire. Le texte est court, sec, tendu, dans la veine des romanciers de l'époque qu'il traite, et moi j'aime bien ça. Alors, écoutons ce qu'il a à nous dire. Sacrifié du Vercors, c'est ton 5e roman, mais qui est justement cette Sacrifié du Vercors, et comment oser franchir le pas de faire d'une histoire familiale une histoire romanesque ?
Bah, une obligation, quoi, je dirais. J'avais cette histoire depuis une quinzaine d'années en moi, et après j'ai rencontré une éditrice qui était intéressée par l'objet littéraire. Mais j'avais tout, c'est déjà une période qui m'intéresse, hein, puisque mon deuxième roman c'est sur la Seconde Guerre mondiale, enfin le phénomène concentrationnaire, puis c'est le camp de Mauthausen. Et puis j'avais cette histoire de famille depuis longtemps.
Mais alors, c'est qui cette Sacrifiée du Vercors ?
La Sacrifiée du Vercors, c'est deux personnes dans le roman qui sont, on va dire, fictives. C'est à la fois une jeune fille de résistant qui s'appelle Marie Valette, voilà, qui est retrouvée morte dans le Vercors drômois à Saint-Julien-en-Vercors. Donc elle est une grande famille de résistants, mais elle est retrouvée assassinée, supposément violée et surtout tondue. Alors, on tournait pas les résistants à la fin de la guerre, mais plutôt les collaboratrices, notamment beaucoup de ce qu'on appelait la collaboration horizontale quand on est pour des, donc des raisons très 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 intimes. Bah, sur les 20 000 tondus de la fin de la guerre, il y en a 10 000 qui l'ont été pour collaboration horizontale. Et puis c'est aussi une autre Marie qu'il y a dans le roman, et les lectrices et les lecteurs le découvriront, voilà, qui est très chère à l'un de mes deux personnages principaux, voilà, qui est commissaire de police, et c'est son amour de jeunesse, et il y a une forme d'identification, voilà, de fusion entre son amour de jeunesse qu'il a perdu et cette morte-là.
Alors justement, ce commissaire de police, il s'appelle Georges Duroy. Il est un peu dans la lignée des Maigret, parce qu'il est à la fois débonnaire, observateur, impassible, inflexible. Mais il appartient à un étrange service. Comment il s'appelle ce service et comment tu l'as découvert ?
Ce service s'appelle la délégation à l'épuration, qui était rattachée au commissariat à la République de Lyon, puisque à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand le pouvoir gaulliste, principalement, a voulu remettre en place l'État, il s'est appuyé, il a divisé la France en régions. Donc il y avait notamment la région Rhône-Alpes, et il y avait un commissaire à la République à la tête de cette région, comme dans toutes les régions françaises. Enfin, ils avaient des pouvoirs assez importants, hein, dignes de chef d'État, puisqu'ils avaient notamment le droit de grâce, qui existe très très peu dans l'histoire de France. C'est vraiment un pouvoir qui est dévolu au roi, ou au roi monarchique, au président de la République. Donc c'est quand même quelque chose d'assez connu. Et puis après, voilà, je savais par mon histoire familiale qu'il y avait des personnes qui avaient été en charge d'encadrer l'épuration. Et donc, ils étaient rattachés à... Enfin, ces commissariats à la République, on va dire, avaient des ministères de délégation. Et il y avait, voilà, il y avait une délégation à l'épuration. Donc, en me documentant, pour répondre à la question, principalement en me documentant.
Lui, il apparaît dans l'histoire avec une espèce de MacGuffin, puisque il vient chercher la baronne Ehrlich, et à partir de ce moment-là, il va se passer tout à fait autre chose. Et c'est là qu'apparaît un autre personnage qui, à mon sens, est un personnage héroïque dans toute sa dramaturgie. C'est le lieutenant-colonel, alors je vais essayer de dire son nom tout entier, FFI Ulysse Anselme Weisser d'Alphonse dit Choranche. Lui, il existe qu'à travers la libération, quelque part. Il est voué à disparaître. Pourquoi une telle destinée ? En quoi est-ce une figure du passé ?
Alors, pour le coup, je me suis vraiment inspiré d'un personnage historique qui a existé, hein, qui était un lieutenant de cavalerie, qui était le chef du Vercors Sud, qui s'appelait non pas Choranche, mais Tigolet. La seule chose que j'étais obligé de faire, c'est d'enlever de la part romanesque du personnage historique réel, parce que sinon il était trop romanesque pour se retrouver dans un roman. Et il est déjà, il est déjà assez haut en couleur. Je pense qu'il fait partie du passé, notamment parce que je crois pas que ce soit un personnage qui colle vraiment au grand récit national sur la Seconde Guerre mondiale, qu'on pourrait résumer en la France a gagné la guerre avec les Anglais et les Américains. Parce que juste par son destin personnel, en fait, c'est quelqu'un qui est dans l'armée d'armistice jusqu'en 42, et donc il a pas fait le choix de De Gaulle, a priori. Et quand les Allemands envahissent la zone sud, il est à Lyon, et il part de Lyon en fait sur son cheval avec ses troupes, et donc il se rend dans le nord de la Drôme, et il fonde un maquis qui s'appelle le maquis Bozambo, très connu dans le nord de Drôme. Puis après il monte dans le Vercors, et comme il y a un petit problème de ressources humaines fin 42 dans la résistance, puisque le gros des troupes c'est à partir du STO en 43. Là, il devient un grand résistant, et je trouvais qu'il incarnait assez bien finalement ces trajectoires assez particulières. Il n'y avait pas le bon camp et le mauvais camp, et surtout des histoires de vie, des rencontres qui font que on se retrouve d'un côté ou de l'autre.
Oui, et puis il y a cet autre personnage, évidemment, qui est le Vercors. C'est marrant parce que quand on regarde un peu ton œuvre, l'Auvergne, elle est quasiment omniprésente. Tu t'attendais à être un romancier du terroir ?
J'écris surtout sur Lyon, on va dire ça comme ça. Moi, on va dire que la plupart de mes romans se passent à Lyon. J'ai un seul roman qui est, on va dire, un petit peu hors sol, c'est Tuer Jupiter, parce que le propos l'imposait. Mais c'est vrai que j'ai ce besoin, je pense, de par ma façon d'écrire, la littérature que je fais, une littérature finalement assez objective et descriptive. On rentre pas dans la tête des personnages, je décris jamais leurs émotions. Mes personnages ont rarement peur, ils ouvrent des portes, Tyromas 38, c'est assez... J'ai une littérature assez descriptive, donc j'ai besoin en fait de l'enraciner dans des lieux. voilà, pour lui donner une chair, comme je me passe des émotions et de la psychologie des personnages, bah, j'utilise toujours voilà, les lieux de façon assez importante. Et puis là, bon, le Vercors, moi, le sujet, c'était la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment... Et je voulais faire quand même un livre critique par rapport au grand récit national. C'est, voilà, c'est un lieu mythique de la résistance qu'on a beaucoup mobilisé dans le cadre du grand récit national. Et donc, c'était un peu naturel voilà, que je mette cette histoire dans ce lieu-là, que je connais particulièrement parce que j'habite moi-même désormais au pied du Vercors. Et quand je me réveille le matin, je vois les falaises. En fait, c'est assez identitaire du territoire où je vis.
Bah oui, justement, on va aborder le style. Alors, l'action se situe sur une seule journée. Et là, on a un style qui est, alors, sans aucun jeu de mots, très épuré. Et qui est au service d'une... L'intrigue, elle est super simple. Alors, moi, j'imagine que comme Edmond Léonard, tu travailles cette simplicité et que c'est quelque chose qui est tout sauf simple. Pourquoi ce choix dans la lignée, tu sais, des grands romans d'aventure des années 40-50 moi, je pensais à Pierre McCorland ou Jean Hougron, des gens comme ça.
Alors ça, c'est vraiment un choix réfléchi dès le départ. Voilà, comme je voulais faire quelque chose de critique par rapport au grand récit national, au grand roman national, ce que je connais, après je ne suis pas un immense lecteur, mais ce que je connais sur cette époque, sur la Seconde Guerre mondiale, ce sont souvent des grandes fresques avec une forme de lyrisme. Donc moi j'ai choisi les trois règles de Boileau, donc on n'est pas sur une longue période, donc du coup il y a peu de personnages, il y a un traitement, une intrigue assez, on va dire ça, assez minimaliste et sèche, pour pas rajouter de lyrisme par des artifices, des artifices esthétiques. Et puis, une fois que ces contraintes esthétiques-là ont été posées, voilà, qui sont les contraintes esthétiques du roman noir américain, voilà, parce que j'ai quand même été lecteur de Dashiell Hammett et de Raymond Chandler et de la littérature dite behavioriste. En fait, j'ai lu trois livres pour me documenter, qui sont Uranus de Marcel Aimé, La Crève de Frédéric Dard et Les Épées de Roger Nigné. Et eux, en fait, font ces trois romans critiques, pas sur l'épuration, mais sur les collaborateurs. Et donc, c'est vrai qu'ils ont aussi choisi une focale courte, en fait, hein, voilà, un temps des histoires simples pour non pas justifier la collaboration, non pas expliquer la collaboration, mais voilà, encadrer ça par des trajectoires de vie. Parfois, on fait des mauvaises rencontres dans la vie et donc on va du mauvais côté. Donc ça a en fait légitimé, je dirais, les contraintes artistiques que je m'étais fixées avec mon éditrice dès le départ, parce que je voulais pas de lyrisme, je voulais quelque chose de très sec et je voulais pas sacraliser ni les gens ni le lieu. Voilà, parce que en fait il suffit d'aller marcher dans le Vercors, c'est une citadelle, c'est vraiment une forteresse naturelle, c'est déjà très très majestueux en soi pour les gens qui connaissent. Donc ouais, je voulais avoir un traitement une focale courte, minimaliste, sec. Ouais, tradition du roman noir américain avec voilà des trois références françaises. Qui sont d'ailleurs pas des auteurs de gauche, hein. Ce sont plutôt un courant politique, c'est-à-dire qu'ils ont eu un regard critique et très courageux d'ailleurs, parce que c'était en 1946-47 hein, qu'ils ont fait ces romans-là. Ils ont pas... Moi, je manque un peu de courage, je pouvais pas le faire. Mais moi, je le fais 70 ans après, c'est plus froid, hein. L'époque est moins chaude.
Bon, mais nous, c'est bientôt fini. Alors, je vais te poser la dernière sacro-sainte question à Calibre 58. On écoute quoi comme musique maintenant et pourquoi?
Alors, j'écoute beaucoup cette musique parce que je l'adore. C'est La Nuit, je mens d'Alain Bachon. Voilà, parce qu'il y a le Vercors. Donc, pour cette raison-là. Et puis, parce que j'aime bien ce chanteur qui est très français, mais pas franchouillard. Donc, c'est ce que j'aime. Voilà. C'est ce que j'aime vraiment chez lui.
Eh bien, François, merci. On écoute maintenant Alain Bachon et à bientôt.
Merci à toi. Au revoir.
On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station Bellière. Tu t'es pas fait prier. J'ai des gants de crin, geyser. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. existe encore tous mes goûts. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Dresseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore. Dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'enfort au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. Je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions, où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM. C'était La Nuit, je mens d'Alain Bachung. On remercie encore François Médéline pour avoir accepté de nous répondre au téléphone. Je vous rappelle le titre de son roman, La Sacrifiée du Vercors, et c'est chez 10-18. C'est maintenant l'heure d'écouter Linda et ses sueurs froides. Et si mes sources sont bonnes, il va être question d'un film de 2019 dans le nord de la France, réalisé par un cador avec une belle brochette d'acteurs et d'actrices. Linda, c'est à toi après un petit jingle.
I want you to follow my wife. I'm afraid some harm may come to her.
Oui, oui, alors j'ai d'abord hésité au début, je me suis dit, ah, je vais leur parler de Toni Morrison, de Beloved. Alors, Beloved, bah, c'est sur la folie barbare de l'esclavage, ou la barbarie folle des esclavagistes, ou le paroxysme barbare qui rend fou les esclavagés. Alors, je me suis dit qu'après l'enfermement carcéral dont je vous ai parlé la dernière fois, ils se sont dit que j'allais filer un mauvais coton, peut-être, que c'était un peu plombant. Alors, j'ai changé mon fusil d'épaule et je vais vous parler de Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin. C'est pas foufou non plus hein, au niveau de l'ambiance, mais on y sourit quand même. C'est quand même beaucoup plus posé. Alors, je commence par quoi ? Arnaud Desplechin, Télérama l'avait titré en nouveau maître du polar. Entendons-nous bien, c'est pas un film, c'est pas le who done it qui est important, hein, c'est qui a tué, c'est pas là-dessus que ça repose, le réalisateur lui-même le dit. C'est un film noir, c'est plus un, on pourrait dire un polar social, ce sont les instants de vie en fait qui sont vraiment importants. Et lui, ce qu'il va aller capter, c'est la lumière des relations humaines. D'ailleurs, c'est inspiré d'un documentaire qui s'appelle Roubaix Commissariat Central de Moscou Boukho, qui parle en fait d'un drame de 2002 et qui parle d'un commissaire charismatique de Roubaix, effectivement d'origine algérienne, et qui est ici incarné par Roche Dizem.
Tintin.
Bah oui, en fait, par principe, moi je vois Roche Dizem, je regarde. Double principe, Arnaud Desplechin, je regarde. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai regardé, non pas deux fois. Et ce qui est très charismatique dans ce commissaire, c'est son absence de jugement par rapport aux gens en général, que ce soit victime comme accusé. Lui, ce qu'il veut, c'est la vérité des gens. Il n'est pas dans le pourquoi, mais dans le comment. Et il veut aller chercher cette vérité de l'instant, très subjective, mais la vérité de chacun. Et il leur redonne leur humanité, il détache l'acte de l'être. Ça m'a fait penser à un juge que j'avais entendu dans une interview, juge qui était dans un domaine, non, je ne sais plus exactement, je sais que c'était des trucs très très durs, hein, type assassinat, viol, enfin c'était... Et on lui disait, mais comment vous faites avec ces gens en face de vous qui ont fait des choses monstrueuses? Et il s'est dit, enfin, le journaliste parlait en termes de monstres, il dit non, il dit, moi j'ai jamais rencontré de monstre. Et là, on est vraiment là-dedans. Pour le commissaire Daoud, il n'y a pas de monstre, il n'y a que des gens. Je pense qu'il a vraiment réussi à capter quelque chose d'incroyable dans ce film Desplechin, que ce soit au niveau des relations qu'il y a. Il n'y a jamais de mépris, ni de condescendance pour les misérables. La lumière du titre, c'est les lumières de Noël, mais c'est la lumière de chaque être humain qu'il arrive à rendre. À un moment donné, on a le personnage de Daoud qui dit ça, la pauvreté, c'est rien. Il y a toujours la lumière qui peut ressurgir à un moment donné. Et il a réussi à capter cette ville. En fait, il est originaire de Roubaix, Desplechin, mais il dit qu'il connaissait quasiment pas la ville parce que lui, il était au cinéma, enfermé dans sa piole en train de bouquiner, etc. Et que c'était pour lui une occasion de redécouvrir la ville. Et je crois que toi, ça t'a... Luc, tu disais tout à l'heure que ça t'avait vraiment... capter aussi ça de revivre ces endroits que tu connais. Tu peux nous en dire deux mots?
Ben c'est simple. Pour moi, le film Roubaix une lumière, la lumière, c'est plus que la lumière des hommes et des femmes que Roche Dizem filme. C'est la lumière de la ville. C'est le climat de la ville. Et le film, il s'avère que moi, j'ai été dans le Nord pendant quand même plus d'une dizaine d'années, que j'ai travaillé à Tourcoing et que les rues dans lesquelles passe Roche Dizem, moi, je les ai faites en voiture. Et il a réussi, par cette lumière jaune de nuit, à faire transparaître les émotions que moi, j'ai eues quand je traversais ces rues-là. Et c'est extraordinairement magnifique.
Desplechin explique en fait qu'il a travaillé énormément techniquement effectivement avec son équipe pour le jeu de lumière entre la lumière de dehors et tous les intérieurs, de réchauffer tous les intérieurs. Et en fait, ce qui est très très pointu techniquement, c'est que ça, il le décrypte après parce que j'ai regardé des entretiens, mais quand on voit le film, on le ressent. Mais la technique disparaît. Enfin, c'est tellement magique qu'il arrive à faire disparaître. Et on a juste les sensations de temps qui passe, de chaleur, d'effroi. Mais ça, on le ressent simplement. On n'analyse pas sur le moment. Et il a réussi un autre truc de vraiment capter la vie. Parce qu'en fait, il n'y a que 5 acteurs professionnels. Il y a Roche Dizem, Léa Seydoux et Sarah Forestier qui font le rôle des deux femmes en perdition, on va dire. Antoine Reynard qui fait Louis, le jeune flic diplômé qui débarque dans le service de Daoud. Et Philippe Duquesne qui joue le rôle, alors c'est un second rôle, juste au début, qui est absolument magnifique, d'un gars qui arrive moitié mourant, il frappe, ah, je vais mourir et tout, je me suis fait agresser. Et en fait, on voit comment le commissaire démonte le truc petit à petit. En fait, le gars essaie de faire une arnaque à la voiture volée, il a fait brûler sa bagnole pour faire passer ça. Et il explique, en fait, le réalisateur explique qu'il n'a pas voulu avoir une vraie personne. Enfin, quelqu'un à qui c'était vraiment arrivé pour le jouer, parce que ça, c'est vraiment pitoyable d'être autant dans la misère pour être obligé de faire ce genre de choses. Parce que tous les autres sont des amateurs. Et ça, il y a eu 6 semaines de repérage pour aller chercher des gens sur place. Et ça veut dire que les petites frappes qu'on voit, les flics, tous les flics sont amateurs. Et c'est eux qui vont dire à Desplechin, non, non, ça se passe pas comme ça. Et du coup, on est vraiment dans la réalité, on capte le moment.
Excuse-moi, les flics sont flics amateurs ou
c'est... Non, c'est des flics qui sont comédiens amateurs.
D'accord.
C'est les amateurs, c'est les comédiens. Il y a vraiment je vais terminer avec ça. Au tout début, donc on est vraiment dans du quotidien, ils sont appelés sur un cambriolage, enfin, dans une boulangerie, ils se font agresser. Le boulanger est sénégalais et la femme flic lui demande, mais vous avez eu peur? Il dit, mais moi j'ai été berger. Elle dit, quoi, pardon? Elle croit qu'il a été hébergé. En fait, non, il était berger. Et en fait, c'est une scène qui n'arrivait pas à tourner. Et Desplechin a discuté avec ce gars-là pour essayer de trouver par où rentrer et ce qu'il allait pouvoir attraper de ce qu'il avait vécu. Et ce gars était vraiment berger. Il s'est fait agresser, mais c'était des armes de guerre. Lui, quand il s'est fait agresser, il s'est fait blesser. Même blessé, il est allé récupérer le troupeau parce que sinon c'était le déshonneur dans le village. Et quand il s'est fait attaquer au coupe-coupe, là il a lâché l'affaire, il a dit non, c'est plus possible, je m'enfuis. Et donc c'est ça en fait, là il était en train de leur dire, mais me faire agresser par deux gars qui ont un pistolet, mais non, j'ai pas peur. Ce qu'il y a, c'est que j'en ai marre, ça fait 5 fois en un an pour me voler 20 euros, quoi. Et on est dans des choses complètement improbables comme ça, tout le long. Et c'est hyper vivant. J'allais dire, c'est la technique, le vivant avec la subtilité de la technique de jeu mélangée. La magie du savoir-faire de Desplechin, la magie tout court, quoi.
Waouh!
Waouh! Merci Linda. J'imagine aussi que l'ouverture des cinémas et plus particulièrement du Saint-Charles à un grand de Fresnes-sur-Loire te réjouit.
Oui!
Bon, sans transition aucune, je passe la parole à Luc pour On n'achève pas les classiques. Luc qui nous fait une variante d'ABC contre Poirot avec un certain ADG pour venger Pépère. Alors c'est pareil, Luc, c'est à toi après une petite introduction musicale.
Bon ben les amis, maintenant que je sais que vous êtes vivants et puisque Calibre est une émission de mauvais genre, je vous propose d'aller dans le dur. D'aller vraiment dans le mauvais genre. Et pour cet opus de ma chronique On n'achève pas les classiques, je vous promets que ça va se sentir, que ça va sentir le soufre. Et l'odeur de soufre, ce n'est pas l'arrivée du diable qu'elle annonce, non, mais trois lettres, seulement trois lettres, A, D, G. Ça y est, c'est lâché, le rejeté, l'indéfendable, l'imprononçable, j'ai osé, vous avez bien entendu ADG, de son vrai nom Alain Fournier, comme le Alain Fournier du Grand Moulin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a pris un pseudonyme pour franchir le pas, j'ai choisi le roman pour venger Pépère. Un roman de 1980, il avait déjà viré à droite toute le ADG, journaliste et grand reporter à l'époque pour Minute, pour vous situer l'énergumène. Mais voilà, plus que de l'orientation politique dont il faut parler avec ADG, c'est du style. On ne peut pas parler de ADG sans parler de Jean-Patrick Manchette, les deux lascars qui vont donner le ton du polar des années 80, qui vont ouvrir la voie à des Fajardi, des Deninx, des Jonquets. Pour venger Pépère, ça démarre sec. Une voiture, une R30, qui se plante sur un dos d'âne. Trois malfrats qui en jaillissent. Ils agressent le pépère du titre pour lui prendre les clés de sa vieille 403. Celui-ci leur balance son briquet allumé à la figure. Il finit allongé sur le trottoir, déchiré par une rafale de mitraillette. Et ça va ne pas plaire à Pascal Delcroix, son petit-fils, avocat au barreau de Tours, de son métier, qui dès le départ va prendre une résolution. Celle de tuer ceux qui ont assassiné son grand-père. Et son grand-père, Pépère, comme il l'appelait, il l'aimait bien, le Pascal Delcroix. Pépère, ancien tailleur de pierre, pêcheur à 16 heures, appréciant un bon coup d'alcool fort et cerise sur le gâteau, communiste, un vrai soutien à Georges Marchais. Alors, il va engager la chasse. Très vite, l'enquête qu'il décide de conduire seul le met sur la trace d'un des voyous, Baudou. Pour démêler l'affaire, il rencontre donc Sophie Baudou, la sœur, une jeune femme plus que séduisante. Et de fil en aiguille, il va découvrir que le responsable du carnage est Christian Jouax, ancien gauchiste, qui a créé une communauté hippie. Souvenez-vous, les amis, on est tout au début des années 80, mais c'est de la préhistoire sans doute pour vous. Du fait de son métier, Pascal Delcroix a des accointances avec beaucoup de monde. Il est bien connu du commissaire Hennick, qui conduit l'enquête et qui l'avertit de ne pas se la jouer outlaw. Il connaît aussi la presse locale, dont le journaliste Djerbitskine, dit Machin, dont il est ami et qui va l'aider.
Et par progression successive, son enquête nous fait découvrir le monde plein de turpitudes de la province profonde. Le fils de député pédophile, maqué avec un célèbre animateur de télévision, le député en question qui s'est débarrassé de sa femme grâce à un accident de voiture, la petite bourgeoisie locale qui tient le pouvoir. On n'est pas à Paris, on n'est pas non plus à Marseille, on est à Tours, et malgré tout, ça défouraille sec. Le livre est de 1980 et c'est toute une époque qu'il nous rappelle, ou fait découvrir pour vous les plus jeunes. On y roule en R30 ou en R12, en Matra, la voiture à n'avoir que trois places frontales, mais aussi on y roule encore en 403. On y parle en franc et en ancien franc. Peu de temps avant, en janvier 1977, c'était la publication dans Le Monde de la sinistre tribune de 69 intellectuels et personnalités de gauche, dont Jack Lang, Bernard Kouchner, Guy Hockenheim et tant d'autres, de soutien aux pédophiles. Époque étrange qui révolte ADG. Cette gauche qui s'arroge toutes les vertus, il l'aborde. Quelle autre possibilité alors que de choisir la posture de l'anarchiste de droite ? Mais ADG, c'est surtout un style. La langue, il la travaille. Il use de jeux de mots à tour de stylo. Comme ses aînés Simonin ou Frédéric Dard, son écriture est truffée d'argot et au détour d'une phrase, un mot peut surgir sans rapport aucun avec l'action en cours. Dans Pour venger Pépère, il donne libre cours à ses têtes de turc. La bien-pensance de la gauche, surtout. Les égarements du monde politique, la bourgeoisie provinciale. Mais il parle de son attachement à son territoire, Tours, les rives du Cher ou de la Loire, Véretz, où il est inhumé. On y boit beaucoup, tout le temps. Il y glorifie la langue tourangelle et il use du patois cher, par exemple, à Gaston Couté. Mais il y a ces phrases assassines sur la misère, sur les pauvres ou sur les étrangers qui font vraiment, et là Julien, tu vas être content, très mauvais genre aujourd'hui. ADG, c'est un réactionnaire, un vrai. Il parle en ancien franc. Le nouveau franc a quand même été introduit 20 ans avant. Il refuse tous les anglicismes qu'il francise systématiquement. Il déteste les acronymes qu'il convertit en mots. Il a pour cible la technocratie stupide. Mais de cette radicalité, peut-on réellement lui en vouloir ? Le roman s'intitule « Pour venger Pépère ». Il est de ADG, il est publié dans la série noire de Gallimard sous le numéro 1806. Il est à consommer, même pas sans pincer le nez, sans modération.
Ah, moi aussi j'ai roulé en R12 à une époque. ADG, c'est un auteur qui détonne dans le paysage éditorial du roman policier français. Faut dire qu'il était un chouïa de droite, le petit père, comme tu nous l'as dit. Mais bon, le talent n'a pas vraiment de couleur politique. J'en veux pour preuve Céline et Drieu La Rochelle, qui sont pour moi deux auteurs cultes. Mais quittons la noirceur du monde et retrouvons-nous autour d'un morceau de Rosetta Tharpe. Alors, ça jazz, baby ?
Eh, ça jazz, c'est ça jazz gospel, ça jazz, mais j'ai envie de faire un petit flashback, un tout petit flashback. Ce jour-là, il y avait un Dazzy Bao sur un mur de Nantes. Alors pour rappel et pour les plus jeunes de nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, le Dazzy Bao en Chine est une affiche rédigée par un simple citoyen traitant d'un sujet politique ou moral et placardée pour être lu par le public.
Eh monsieur, si on ne sait pas ce que c'est, on est forcément jeune.
Oui.
Jeune dans sa tête.
Et donc, sur mon Dazibao, un manifeste long comme seul un haïku peut l'être. Alors, pour rappel,
haïku... Prends-nous pour des quiches.
Non, mais pas vous. Mais on ne sait pas qui est derrière le...
Oui, derrière quiche le poste. Japonaise.
Une quiche japonaise, tout à fait.
Voilà. Donc, pour rappel, le haïku est un poème extrêmement bref, célébrant l'évanescence des choses et les sensations qu'elles suscitent. Alors pour ceux qui pensent que je m'intéresse beaucoup à la place et au rôle de l'Asie dans toute cette longue histoire, je dirais simplement qu'ils sont hors sujet. Pour moi, il y a un bémol parce que j'essaie juste de parler de musique. Et si les gens esquissent des haïkus en lettres de feu sur des Dazzy Bao à quelques encablures à peine de feu la gare de Nantes, eh ben c'est le hasard. Du coup, je la ferai courte, puisque c'est un haïku, d'autant que je suis obligé de compter sur ma mémoire, laquelle a déjà maintes et maintes fois eu l'occasion de me prouver qu'elle et mon inconscient fréquentent le même cercle d'humour. De mémoire donc, écoutez ça, deux points, ouvrez les guillemets. Erratum. La femme n'est pas l'avenir de l'homme. Qu'il se démerde. Fermez les guillemets. Alors moi j'ai envie de dire...
C'était
pourtant,
qu'il se démerde tout seul.
Ah, c'était qu'il se démerde tout seul. Bon.
C'est un haïku sur la tête. Tu sais, ça fait mal.
Alors moi j'ai envie de dire, et pourtant, attention, il y a un piège, écoutez ça. Bo Diddley, Little Richards, Fats Domino, Chuck Berry, Nina Simone, Bob Dylan, Keith Richards, Jeff Beck, Eric Clapton, Johnny Cash, Elvis Presley, Led Zeppelin, Van Morrison, les Grateful Dead, Bruce Springsteen, Gene Vincent, Buddy Holly, Jerry Lee Lewis, et j'en passe parce que en fait la liste est vraiment très très longue. Ils ont repris ces tubes ou reconnu son influence sur eux. Je vous avais dit qu'il y avait un piège.
Les tubes de qui ?
Ouais, bah moi je sais, ils n'ont pas gagné l'Eurovision.
Les tubes.
Ils ont gagné la coupe.
Non, puisque c'est comme ça, on va lancer la musique.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
I'm gonna lay down my sword and shield
down by the riverside.
I'm gonna study
un seul même thème et deux styles presque opposés. Le jazz de Louis Armstrong, qui prend un thème de gospel, et le gospel de...
Rosetta Tharpe.
Sister Rosetta Tharpe. Oui, parce que en fait, on aurait pu lancer un sondage, le sondage Rosetta, mais non, c'est vraiment Sister Rosetta Tharpe, la femme qui a créé quelque chose qui fait vraiment penser à autre chose, parce qu'on disait d'elle qu'elle faisait du gospel. Du gospel. Elle prenait une guitare électrique, il faut imaginer une femme d'une cinquantaine d'années qui chante avec une espèce de coupe improbable.
Ben, genre choucroute, ça fait vraiment années 50.
Oui.
Hein, choucroute chantilly, là, montée sur la tête.
Et une guitare électrique et qui chante et puis qui joue la guitare comme personne n'avait vu avant.
Oui, ça fait, excuse-moi, hein, c'est l'image de la ménagère, mais avec une guitare électrique qui est en train de... Enfin voilà, c'est la conjonction des deux, je trouve ça génial.
Elle a commencé la guitare à l'âge de 4 ans, à 6 ans, elle tournait avec sa maman dans les églises et elle a commencé à jouer professionnellement à l'âge de 6 ans. Elle est née en 1915, elle est morte en 75 et en fait... Il y a une femme qui s'appelle Gail Wald, qui est une universitaire, une prof d'anglais de la section études américaines de la fac de George Washington. Washington DC, elle a découvert cette Rosetta Tharpe et elle a écrit une biographie qui s'appelle Shout, Sister, Shout. Et c'est elle qui a déclenché... Ah oui, pardon, il faut que je fasse un peu plus vite. Alors donc, du coup, Chuck Berry n'est pas celui...
C'est censé être discret. Hein.
N'est pas celui qui a introduit les solos de guitare dans le rock. Chuck Berry n'est pas non plus celui qui a créé le rock'n'roll. Une minute de silence, mais je ne sais pas si on va pouvoir la respecter.
Non, on n'a pas le temps.
Elvis non plus. Deuxième minute de silence qui
ne sera pas non plus respectée.
Non.
Elle a été introduite au Rock'n'Roll Hall of Fame en 2018, donc c'est avant-hier. Le documentaire sur sa vie date de 2011, d'après le livre de Gail Wild. Et voilà, c'était... Même Bob Dylan a écrit des choses extraordinaires à propos de Rosetta Tharpe. C'est elle qui a créé le rock'n'roll et nous la remercions.
Waouh ! Eh bien, vous êtes encore et toujours à jamais sur le 101.5 FM sur Radio G. Et c'est Calibre 58, l'émission qui entend vous sortir du noir, même musical. Alors, nous écoutions Toups et ça a toujours cultivé chronique musicale. On en avait bien besoin avant de s'étriper autour du film de Karl Reiner, Les cadavres ne portent pas de costard. Et oui, comme l'annonce cette petite musique que nous n'entendons pas encore en sourdine, c'est l'heure maintenant de notre débat musical. Alors, on écoute à la suite un petit extrait et Luc nous dresse, comme à son habitude, le pitch réussi de ce film atypique.
Fifth Street looking for Samuel H. Hastings. It was a street of frustrated hopes and broken dreams. Everything was cheap and cut rate. Even the prostitutes were having a sale. There was no problem finding Hastings. He owed money to every bartender in town. He was staying at the Hotel Ward on Fifth Street. It used to be on Eighth Street, but they'd taken so many rubber checks it bounced all the way across town. I went to his room and knocked.
Eh bien, Julien, puisque tu m'as demandé de présenter Dead Men Don't Wear Plaid, Les cadavres ne portent pas de costard, eh bien, je vais m'y mettre, hein, y a pas le choix. Rigby Reardon, Steve Martin, est un privé, un vrai. Il est engagé par Juliette Forrest, Rachel Ward, pour qu'il retrouve son père, un célèbre fabricant de fromage qui a étrangement disparu. Putain, comme pitch, ça tient ça. Le seul indice qu'elle lui donne, c'est le début d'une liste écrite sur un coin de billet de 1 dollar.
Rigby Dearden se lance dans l'enquête avant ayant compris qu'il lui faut trouver la liste originale. Et c'est le début d'une grande farce où tous les codes du film noir sont exploités. Le privé qui réfléchit en voix off, les drogues mises dans de l'alcool, les bagarres, les dialogues toujours surlignés, souvent décalé, jouant sur le second degré. Là, j'en rajoute un peu quand même. Quand on regarde le casting du film, on est dubitatif. Un film qui sort en 1982 et qui affiche pas moins de Humphrey Bogart, Kirk Douglas, Charlton, Cary Grant, Ingrid Bergman, James Cagney, John Crawford, ça pose des questions. En réalité, il s'agit d'une performance technique où, pour conduire l'intrigue, le réalisateur Carl Reiner a extrait des séquences de vrais films noirs pour les intégrer à son propre projet, ce qui donne l'occasion à Steve Martin de jouer avec les plus grands. La performance technique est réussie. Les inserts de films anciens ne se voient presque pas et l'utilisation du champ contre champ nécessaire pour ce type de production est réglée au millimètre. Le film est réalisé par Carl Reiner, dont la filmographie n'est faite que de comédie, et il est mort l'année dernière. C'est tout.
Quelle chute, mes amis, quelle chute.
Alors, et quel entrain.
Alors, avant de vous laisser la parole, moi, je dois dire que je l'ai choisi parce que j'adore Steve Martin, et j'adore Steve Martin, l'acteur de stand-up, l'acteur au cinéma, et aussi, il faut bien le dire, le nouvelliste, parce qu'il a écrit des petites nouvelles chez Buchet-Chastel, qui étaient formidables, et qui en faisait à peu près, alors j'ose la comparaison, l'égal de Tom Sharpe et P.G. Wodehouse pour moi.
Ah oui.
Voilà, et qu'en plus, donc, chez Baker Street vient de paraître une petite anthologie de dessins de presse absurdes qu'il a écrit. Alors lui, il a écrit et c'est Harry Bliss qui a dessiné. Et ça se picore, ça s'appelle Une abondance de pigeons et c'est plutôt pas mal. Maintenant, je laisse la parole à mes amis pour dire ce qu'ils ont pensé ou pas de ce film. On a très peu de temps puisqu'on a 3-4 minutes.
Vas-y, je te sens bien. Vas-y,
moi
Linda. Si, je sens que tu as de la
ressource. Tu sens que j'ai ressource. Plein de choses à dire.
Bah oui,
je te remercie vraiment, Luc. Franchement.
Après Roubaix, une lumière.
Oui, c'est ça.
Tranquillos.
Alors, comment dire ? Moi, j'aime pas dire du mal de. Bon.
Bah, c'est trop tard, t'en as dit.
Tu veux parler tops ? Non, franchement. Enfin. Voilà, sur la prouesse technique, oui, sur la synchronisation. Alors, c'est vrai que il y a juste un grain qui change, oui. Que ce soit au niveau visuel, oui. ou audio, on entend vraiment un changement de grain. Mais sinon, c'est vrai que techniquement, c'est une prouesse. Alors, il y a juste un truc que j'ai trouvé rigolo, c'est que Kirk Douglas, au début, il est tellement jeune.
Ah oui.
J'ai pas reconnu tout de suite.
Bah, c'était Michael.
Ah, c'est dingue. Oui. C'était assez chouette. Après, j'ai pas. En fait, Toops m'a dit, tu sais, c'est les 10 premières minutes à passer et après tu vas voir, c'est drôle. Je regardais ma montre, le temps passait et je vais passer la parole à Toops.
Comment dire ? Ça s'appelle un divertissement, je crois. En fait, au début, je m'attendais à ce que ça soit un polar. Et c'est un polar, mais en fait c'est pas un polar, c'est du divertissement. C'est un film qui pourrait passer sur une chaîne de télévision, mais c'est sorti au cinéma. Et effectivement, au départ de l'action, c'est du cinéma, mais c'est vraiment 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 du divertissement. Moi, j'ai regardé ce film avec un regard presque sociologique, parce que je me rappelais que quand j'étais môme, j'avais des copains qui me disaient: oh, t'as pas vu, les cadavres ne portent pas de costard. Ils avaient tous vu ce film, sauf moi. Et ils me disaient tous: oh, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien.
On a les amis qu'on peut, hein.
J'aurais peut-être dû le voir à ce moment-là, en fait.
T'avais 12 ans, non ?
Oui.
Non, mais alors il se trouve que si on regarde un petit peu la progression du film de genre et du film noir et du film policier, on est dans les années 76-82 à un tournant, un truc. Et il n'y a plus vraiment ce genre de film de genre, et apparaissent donc des pastiches. Ça va aller d'un cadavre au dessert en 76 jusqu'à Cluedo en 82 ou 85, et à ce film-là ou encore Le privé de ses dames, et qui vont réalimenter quelque chose, puisque après
va relancer, le film noir va renaître un petit peu de ses cendres. Alors je pense que c'était plutôt quelque chose qui était là pour désacraliser et reconstruire quelque chose avec. Voilà, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir. Mm-hmm. Après, on a eu Qui veut la peau de Roger Rabbit, c'était formidable aussi. Et puis là, il y a Karl Reiner en Asie, il est totalement extraordinaire. Et ça, bon, si on peut dire ça. Mais je m'aperçois qu'il est bientôt l'heure de se quitter.
Juste un petit commentaire. Moi, je pense que c'est du burlesque, hein, c'est présenté comme du burlesque. Le problème, c'est que le burlesque, il y a toute une série de codes qui sont attachés au burlesque, qui fonctionnaient certainement très bien avec le cinéma muet, mais là,
t'es même hermétique à Steve Martin, je comprends.
Non, mais moi j'aime bien le comédien, mais là je trouve pas ça.
Et honnêtement, le gag du tube de dentifrice est d'une légèreté pour symboliser le trouble sexuel et d'une légèreté, d'une élégance, d'une finesse. Je n'en reviens pas que le cinéma américain puisse filmer de telles choses.
D'accord, bah écoutez, ce sont les derniers mots et on va finir avec quelques brèves pour cette saison, car c'est maintenant l'heure de se quitter, non sans quelques brèves en série. Mauve en Noir, c'est ce week-end à Mauves-sur-Loire. La 20e édition de ce salon met à l'honneur l'Afrique dans la lignée du festival Atlantide, les mots du monde à Nantes, qui avait lieu la semaine dernière. Outre quelques habitués de longue date comme Jean-Bernard Pouy, vous pourrez découvrir l'auteur nigérian Leil Adlen, qui est l'invité d'honneur. Twin Peaks célèbre ses 30 ans. La revue La 7e Obsession lui offre un hors-série à partir du 24 juin. Marest Éditeur publie deux ouvrages autour de Richard Fleischer, Richard Fleischer une œuvre et Survivre à Hollywood. Latinoir réédite la petite épopée d'une mémoire ouvrière au Mexique, Irapuato, mon amour, de Paco Ignacio Taibodos. Plus d'informations à ce sujet dans Entre les pages qu'anime Luc demain. Quant à moi, je vous retrouve cet été dans Sous les jupes des films. On parlera western et comédie romantique. À l'année prochaine, les amis.
Ah oui, avec grand plaisir.
À bientôt.
Eh bien, écoute, puisque tu le dis comme ça, à l'année prochaine.
Et profitez bien du soleil. Hein.
Ouais, et sortez.